Europa Voice numéro 80, et comme à chaque fois je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe, et bon anniversaire de
ouais.
Ce numéro 80.
80, c'est un nombre rond, donc c'est bien, c'est sympa.
Tout à fait.
Allez, on va parler de deux sujets, comme on fait à chaque fois dans Europa Voice, et on va d'abord débuter avec la visite de Joe Biden, le président américain, en Europe, et donc ça peut découler pour nous sur une discussion sur les relations entre l'Europe et les États-Unis.
Oui Christophe, alors tout à fait, alors Joe Biden qui a... un trip, comme on dit en Europe, en ce début du mois de juin. Il sera en fait en Europe du 11 au 16 juin. Et il faut dire que Joe Biden, il a véritablement lui-même fait les relations médias de son propre voyage en Europe, puisqu'il avait, il a publié en fait une dans le Washington Post au début du mois de juin, le 6 juin, une opinion où il expliquait en fait la raison de ce déplacement en Europe et d'une certaine façon voilà poser les jalons d'une nouvelle relation avec l'Europe et son titre il est assez explicite, c'est Joe Biden, my trip to Europe is about America rallying the world's democracy. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le premier élément Christophe peut-être dont on peut parler dans cette Europa Voice numéro 80, l'idée que finalement c'est l'Amérique qui va se joindre aux démocraties du monde, et j'allais dire par rapport à l'Europe, à ce qu'il reste de démocratie. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on sait que même au sein de l'Europe, on a de plus en plus de mouvements non démocratiques, de pays illibéraux. Je pense à la Hongrie, notamment. Je pense à certains courants en Pologne. Et donc, c'est une main tendue de Joe Biden à faire alliance avec ces pays qui reste encore dans la sphère démocratique et libérale, au sens anglo-saxon du terme, en Europe.
Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce voyage ? On pense que c'est une page qui se tourne après l'après Trump, parce que c'est aussi la façon dont Biden fera de l'administration, de son administration américaine sur le plan international, donc en commençant par l'Europe. C'est aussi ça qui va être un enjeu, c'est de savoir comment l'Europe tourne cette page de Trump et comment les États-Unis tournent cette page trumpiste envers l'Europe.
Alors, sur cette question d'abord des États-Unis, hein, si on se concentre sur le pays, je crois qu'abord, il y a deux éléments qui sont intéressants dans les relations qui vont être nouées entre les Européens et Joe Biden. D'abord, du côté des États-Unis, en fait, on observe que finalement, il n'y a pas d'effet Biden, mais de la même manière qu'il n'y avait pas vraiment eu d'effet, à part un effet un peu cosmétique, allons, n'ayons pas peur des mots, d'effet Obama après Bush. Ça, c'est une analyse de l'ONG German Marshall Fund, qui, dans son étude transatlantique annuelle, voilà, pointait cela du doigt. C'est-à-dire que, un peu comme avec Obama, on avait écrit une certaine histoire américaine qui, en fait, n'est pas arrivée, et que Joe Biden, ce n'est pas qu'il s'inscrit dans la continuité de Trump, évidemment que non, mais en tout cas, il n'y a pas un effet, un aussi wow effect qu'on pouvait attendre. Le deuxième élément, Christophe, justement, par rapport à cette main tendue vers d'autres démocraties, c'est qu'on le voit encore maintenant aux États-Unis. Ces dernières semaines, elles ont montré à quel point les forces antidémocratiques, alors plutôt au sein du Parti républicain, elles restaient d'actualité, elles restaient agressives, combatives. Et un exemple qui est très parlant, c'est que les élus au Congrès ont même réussi à bloquer la constitution d'une commission d'enquête, vous rappelez Christophe, sur la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier dernier, qui avait été commenté partout dans le monde, parce que c'est évidemment un acte, par essence, l'acte anti-démocratique par excellence. Donc ça, c'est du côté des États-Unis. Et après, du côté européen, finalement, pour Joe Biden, encore une fois, c'est affirmer des valeurs communes avec, et des valeurs démocratiques partagées avec ces pays, encore une fois, au sein de l'Europe, qui restent dans une sphère démocratique, dans une sphère libérale. Et puis, à l'heure du multilatéralisme, Christophe, Joe Biden a directement désigné, non pas des ennemis, hein, mais des partenaires avec lesquels il va falloir composer, mais qui pour l'instant ne sont pas dans le giron des États-Unis. Et dans son éditorial, il a clairement fait référence aux activités nocives, hein, harmful activities en anglais, des gouvernements chinois et russes, alors même que Joe Biden va rencontrer son homologue russe en Europe. Donc vous voyez, il y a une affirmation de la part de Joe Biden du partage de valeurs démocratiques, Je ne sais pas si c'est refondé une alliance transatlantique, mais en tout cas, c'est refondé une alliance de ce qu'il reste des démocraties dans cette tournée européenne de Joe Biden.
Alors après, il faut quand même bien imaginer que les États-Unis resteront les États-Unis, l'Amérique restera l'Amérique. Ils sont pas là pour ouvrir la porte à l'Europe sur leur marché américain. Il y a sûrement des choses de l'ère Trump qui vont rester en place. Et faut se rappeler que Joe Biden est pas un président du monde, il est président américain avec des intérêts américains en tête.
Bien sûr, alors, évidemment, hein, Joe Biden reste le président des Américains. Il défend des intérêts américains, mais j'allais dire, il y a quand même certains signes de cette, encore une fois, de cette main tendue, en tout cas de ce multilatéralisme, de cette alliance. Si on prend juste l'exemple du Covid, hein, c'est cette annonce cette semaine la fourniture par les États-Unis d'un nombre important, justement, de vaccins aux pays du tiers-monde ou de pays qui ont des difficultés à accéder à ces vaccins. Donc, il y a quand même des signes. Évidemment, Joe Biden reste le président, Christophe, des États-Unis, mais il y a des signes d'une volonté d'une certaine façon de sortir de cet isolationnisme trumpien de ces 4 dernières années et de renouer un dialogue constructif avec des partenaires européens. Et puis encore une fois, hein, on est à un moment où on n'est plus dans une guerre froide, mais on est à un moment où même au sein de l'Europe, c'est-à-dire au sein d'un partenaire historique, on a des mouvements illibéraux, antidémocratiques. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden, son premier déplacement, c'est sur le sol anglais et c'est réaffirmé, voilà, son alliance avec son partenaire historique. Alors, c'est plus l'Union européenne, mais vous voyez, il y a quand même, et c'est très symbolique, hein, Christophe, ça s'est passé au moment des dates, des commémorations du débarquement, etc. Donc, il y a cette volonté véritablement de faire un pas de côté et de renouer cette alliance des démocraties, bien sûr, à côté de tout un tas de sujets beaucoup plus économiques, de beaucoup plus business, sur lesquels d'ailleurs Joe Biden va répondre, puisque on sait que ces rencontres du président américain, et ben elles interviennent quelques jours après la réunion des ministres des finances du G7, qui ont réussi à Londres à poser un cadre pour l'imposition des multinationales et surtout un taux minimum commun pour l'impôt sur les sociétés. Donc, évidemment, ça c'est un élément aussi important, c'est qu'on est en train de construire une coopération qui va au-delà des aspects politiques, mais qui vont avoir des impacts très concrets sur des questions globales de fiscalité, d'impôts sur les sociétés, d'innovation, de recherche, etc.
Ouais, Joe Biden a également, par contre, tiré un peu les oreilles de Boris Johnson, plutôt sur le côté du Brexit, en leur rappelant qu'il fallait surtout ne pas mettre en jeu la paix en Irlande du Nord également.
Oui, Christophe, tout à fait. Enfin, c'est encore une fois, je crois que Joe Biden, ce qu'il est en train de faire en Europe, ce qu'il a fait avec Boris Johnson et ce qu'il va faire avec le président français et ses autres partenaires européens, voilà, c'est d'assurer une stabilité dans ses partenaires démocratiques en Europe. Ça va pour les membres du G7 et ça va aussi pour des cas ou des situations, j'allais dire, plus particulières comme celle du Brexit et de la paix et de la stabilité irlandaise au Royaume-Uni.
Ouais, et il y a un dernier point, et puis après on va passer à notre autre sujet, mais ça peut faire le lien. Il y a cette question des brevets sur les vaccins anti-Covid. Ça, c'est forcément quelque chose qui va ou qui a été discuté, puisqu'on sait que le président Macron est plutôt favorable, malgré le fait qu'il ait été défavorable auparavant. Le vent semble tourner. Est-ce qu'on sent que le vent tourne également en Europe et on pourra avoir une libéralisation des brevets des vaccins, ce qui devrait normalement pouvoir permettre la fabrication des vaccins plus facilement et donc la distribution des vaccins plus facilement dans les pays en voie de développement?
Alors, je crois qu'il y a deux éléments, Christophe, sur cette question. Le premier élément, c'est qu'on a un momentum pour aborder ces questions-là qui est beaucoup plus favorable. Et rappelez-vous-en, on a discuté dans des précédents numéros d'Europa Voice. On est dans un momentum beaucoup plus favorable pour en parler maintenant parce qu'on atteint des taux élevés de vaccination de population aux États-Unis, en Europe. On est dans une phase de déconfinement et de retour à ce qu'on pourrait appeler la vie normale. Donc, forcément, vous avez une acceptation à la fois politique et sociétale de ces questions-là qui est beaucoup plus facile parce que tout simplement, encore une fois, on est dans un moment plus propice pour en parler. Et puis le deuxième aspect, Christophe, c'est que je crois ce qui avait buté dans les premiers mois de discussion autour de ces questions d'autorisation mise sur le marché, de brevets, etc., c'est qu'on avait l'impression que le politique ne prenait pas en compte l'avis finalement des acteurs principaux, les laboratoires pharmaceutiques, etc., et qu'on voyait pas, qu'ils n'arrivaient pas à voir finalement que l'investissement qui était fait pour la recherche, la technologie, etc. Et donc, en parallèle, se sont tenues, alors pour l'instant, elles sont pas véritablement publiques, mais se sont tenues évidemment des discussions avec les laboratoires, avec les entreprises dans la recherche et l'innovation. Et donc, encore une fois, on est cette fois dans une phase un peu plus avancée, beaucoup plus calme, on n'est pas dans la précipitation. Et donc, tout ça va évidemment favoriser la distribution de vaccins. On l'avait évoqué aussi dans un précédent numéro d'Europa Voice, par le prisme de COVAX, hein, qui est cette mutualisation aussi des vaccins en Europe et cette possibilité d'en distribuer à des pays en développement et plus défavorisés. Et donc, oui, tout ça, Christophe, va de pair ensemble, et on peut voir, difficile de lire dans les boules de cristal, mais en tout cas, on pourra voir certainement une évolution sur cette question-là dans les mois à venir, et notamment si on s'apprête à avoir des injections annuelles, comme sur le modèle de la grippe, du vaccin contre le Covid.
Ouais, tout à fait. Alors, on va passer au deuxième sujet. Et c'est intéressant, c'est la reprise de l'économie, l'attractivité d'un pays comme la France. Et c'est une étude d'ailleurs qui est sortie récemment, une étude qui tombe à point nommé pour le président Emmanuel Macron, qui est plus ou moins officiellement, non officiellement, mais en tout cas en campagne pour sa réélection en mai l'année prochaine.
Oui, Christophe, alors c'est une étude, d'abord pour parler de l'étude, donc c'est une étude établie, c'est un baromètre en fait de l'activité qui est établi annuellement par le cabinet anciennement Ernst & Young EY, et qui montre effectivement que l'Hexagone est toujours la meilleure place en France pour des entreprises pour venir s'installer et investir, et ça devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Alors sur votre question, Christophe, parce que je sais, je vois que c'est ça qui vous intéresse sur la question d'Emmanuel Macron, effectivement, ça vient à point nommé parce que il est attaqué en ce moment par la droite notamment et par l'extrême droite sur les sujets régaliens, sur les sujets sécuritaires, et ça lui permet, et rappelez-vous-en Christophe, on en a parlé, de cette technique de l'encre, de savoir où est-ce que vous-même vous lancez votre encre pour installer le débat, ça lui permet de déplacer cette encre et d'être plus à l'offensive sur les questions économiques, et donc de faire réagir les candidats et adversaires potentiels sur des questions économiques où Emmanuel Macron, avec cette étude, ce baromètre notamment, est plus à son avantage que sur des questions, encore une fois, sécuritaires ou régaliennes.
Alors, ça nous dit quoi justement à propos de cette attractivité ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu une pandémie qui est passée par là, mais c'est une pandémie qui a touché tout le monde. Donc, on peut dire que la planète entière a été impactée. Est-ce qu'on peut dire que la France, par exemple, économiquement, a peut-être été un peu moins impactée qu'autre chose ? Ou est-ce qu'on peut gérer cette attractivité ou cette augmentation de l'attractivité après le Brexit ? Est-ce que c'est l'effet post-Brexit ? Est-ce qu'on a une analyse de ce baromètre ?
Alors, il y a plusieurs enseignements, Christophe, dans ce baromètre EY. D'abord, l'enseignement, j'allais dire global, macro, c'est que la crise du Covid, qui a touché tous les pays du monde, comme vous l'avez dit, et tous les pays européens, finalement n'a pas eu raison de la première place décrochée déjà en 2019. Et la France, encore une fois, reste en tête de ce classement par rapport au nombre de projets d'implantation qui, lui, effectivement, est globalement en baisse. Mais si vous voulez, on peut dire qu'en France, la baisse a été moins grande que dans d'autres pays. Donc ça, c'est les premières enseignement. Le deuxième enseignement, Christophe aussi, ça c'est si on va plus dans le qualitatif et dans l'analyse qui a été faite auprès justement des dirigeants d'entreprise, etc. C'est que on voit que finalement il y a une corrélation qui n'a pas été faite, qui est très faible, entre la stratégie sanitaire qui en France a été beaucoup critiquée comme dans plein de pays pour avoir été un frein aux activités économiques. Et il n'y a pas de corrélation entre cette stratégie sanitaire très critiquée et les grands projets. Donc difficile en fait, c'est un avantage pour Emmanuel Macron, c'est difficile de voir la stratégie sanitaire mise en place comme quelque chose qui a freiné l'activité économique. Et puis le troisième enseignement, j'allais dire un peu macro de cette étude Ernst & Young EY, c'est que environ 40% des projets, donc de ces projets d'implantation en France, se font au bénéfice de ce qu'on appelle dans la nouvelle langue macronienne les territoires, donc se font en dehors de Paris et dans des villes de moins de 40 000 habitants. Donc, ça diffuse, ça ruisselle, si vous voulez, et ça, encore une fois, c'est très propice à la langue macronienne. Voilà, je crois que ce sont les trois enseignements. C'est que le Covid n'a pas eu raison de la première place décrochée par la France déjà en 2019. C'est qu'on ne voit pas de corrélation entre la stratégie sanitaire et les résultats économiques. Et troisième enseignement, Christophe, c'est qu'on a un peu moins de la moitié de ces nouveaux projets d'implantation qui se font en dehors de Paris au bénéfice de ce qu'on appelle les territoires.
Si on élargit un peu, on en a touché deux, trois mots sur cette élection présidentielle, à quel point le président Macron a besoin de ça? À quel point il a besoin de ces bonnes nouvelles? Vous expliquiez tout à l'heure, il est en terrain conquis sur le territoire économique, parce que ça a été son nerf de la guerre pendant presque toute sa carrière à Emmanuel Macron. À quel point c'est important pour lui, si tôt, j'allais dire, dans cette course à l'élection présidentielle?
Alors, c'est important, Christophe, effectivement, pour Emmanuel Macron, c'est important parce qu'il a été attaqué de toutes parts sur ces questions régaliennes, sécuritaires, au rang desquelles, hein, on peut en discuter, dresser quelques-unes, la crise des gilets jaunes, effectivement, la montée de l'insécurité, le terrorisme qui a aussi frappé pendant le mandat d'Emmanuel Macron, les réformes d'une justice jugée par ses adversaires trop laxiste. Donc vous voyez, il est attaqué constamment sur ces aspects sécuritaires régaliens. Par contre, sur le volet économique, encore une fois, il y a eu de nombreuses réformes fiscales qui ont été menées de pile depuis son élection et jusqu'aujourd'hui. Je pense notamment à celle sur le marché du travail, mais il y a aussi les baisses de l'impôt sur les sociétés, sur le capital, la baisse des impôts de production. Donc il y a beaucoup de réformes économiques fiscales qui ont été mises en place, et donc si vous voulez, d'une certaine façon, ce baromètre constitue pas l'intégralité, mais une partie de la réponse à ces réformes fiscales. Et c'est sur ça que le président Macron va jouer. Il va dire, bah oui, vous m'aviez accusé, je prends un autre exemple, d'avoir supprimé l'impôt sur la fortune au début de mon mandat, d'avoir fait une flat tax avec, donc vous savez, c'est un taux d'impôt unique. À ce moment-là, c'était sur les dividendes. Et ben finalement, ces réformes qui étaient impopulaires, qui ont été beaucoup critiquées, mais que Macron avait, pour le coup, hein, il faut lui reconnaître ça, avait défendu et avait une certaine cohérence avec cette ligne économique, ben ce baromètre, il lui permet ben de justifier cet ensemble de réformes et presque de mettre la crise sanitaire de côté. Et donc forcément, le président va jouer de ça et va s'engouffrer, si vous voulez, pour dire voilà. On a dû faire face à la crise sanitaire et malgré ça, on a ces résultats économiques. Donc, pour un deuxième mandat post-crise sanitaire, on va véritablement voir les effets bénéfiques et positifs de ces réformes économiques et fiscales.
Impeccable, affaire à suivre, hein, dans tout ça. Ça va être notamment au cœur de nos Europa Voice dans les semaines, voire les mois à venir. Merci, Nathanaël.
Merci beaucoup, Christophe.